Voilà, eh bien nous allons pouvoir commencer cette soirée. Et je vous souhaite la bienvenue à vous, amis du Centre Sèvres, étudiants, enseignants, membres du personnel. Et bienvenue tout spécialement si vous venez ici pour la première fois. Les forums du Centre Sèvres, c'est pour nous un peu l'événement qui marque le milieu de l'année universitaire, le passage du premier au second semestre. Et c'est l'occasion de se retrouver un peu gratuitement autour d'un invité et puis aussi d'ouvrir les portes du Centre Sèvres à celles et ceux qui veulent le découvrir. Donc vraiment, bienvenue à vous. Et nous sommes très heureux de recevoir ce soir le Père Federico Lombardi. Père Lombardi, votre visage est connu de beaucoup. On vous a souvent vu aux côtés de Benoît XVI, puis du pape François, exerçant le rôle de porte-parole. Le père Lombardi est jésuite. Il a été rédacteur en chef de la Civiltà Cattolica, puis directeur de Radio Vatican, et il a été responsable de la salle de presse du Saint-Siège. Et vous êtes, depuis 2016, président de la Fondation Joseph Ratzinger. Et vous avez été également supérieur de la province d'Italie au moment où elle s'est unifiée. Pas l'Italie, mais la province d'Italie. Mille merci à vous, Père Lombardi, d'être venu jusqu'à nous ce soir. Nous vous avons invité en tant que témoin de ce qui s'est passé au Vatican et dans l'Église catholique au cours des dernières décennies. En tant aussi que collaborateur proche des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Trois personnalités fortes, de styles très différents. Vous allez sans doute nous aider à les redécouvrir, peut-être un peu autres que les images d'eux que nous avons en tête. Et nous avons pensé que vous pourriez nous aider à comprendre ces dernières pages de l'histoire de l'Église et peut-être aussi d'en saisir mieux la cohérence et le sens qui, je le crois, sont bien là malgré les tensions qui parfois aussi percent, comme ça a été le cas ces dernières semaines, à l'occasion de la sortie du livre du cardinal Sarah. Voilà, peut-être que vous allez aussi nous éclairer sur ce dernier épisode, même si sans doute ce n'est pas cette actualité-là que nous avons envie de retenir dans l'histoire récente de l'Église. Voilà. Vous serez interrogés par trois étudiants du Centre Sèvres, des premiers, deuxième et troisième cycles. Et c'est Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix, qui a accepté d'animer cet échange. Et j'en profite pour dire un grand merci au journal La Croix, puisque cette soirée a été organisée en partenariat avec La Croix. Merci beaucoup à vous quatre, car dans des agendas très chargés, vous avez choisi de dégager du temps pour nous aider à rencontrer le Père Lombardi. Père Lombardi, si nous vous avons invité, c'est aussi à cause de votre manière d'être, à la fois sereine, humble, ferme et précise, alors même que vous vous retrouviez sous le feu des questions brûlantes, voire parfois mordantes. Dans cette manière d'être présent à l'actualité, sans être cependant l'otage de celle-ci, il y a, je crois, une attitude que nous aimons ici cultiver au Centre Sèvres. Prendre au sérieux ce qui se passe dans le monde, se laisser toucher par cela, se laisser déplacer, se laisser même parfois bousculer. Mais sans perdre en nous la boussole qui nous guide, parce qu'est inscrit en nous une confiance fondamentale en celui qui nous appelle et nous rejoint là où nous sommes. Et le travail que nous faisons ici au Centre Sèvres, c'est peut-être avant tout cela, aider à la croissance de cette confiance en chacun. Puisque j'ai commencé à parler du Centre Sèvres, vous avez dû recevoir tous un flyer qui présente quelques-uns des enseignements qui démarrent bientôt. Cela, c'est simplement pour vous donner une idée de ce qui se réfléchit et se travaille ici. Et pourquoi pas, pour vous donner aussi le goût de vous y inscrire à ces enseignements. Je vous signale tout spécialement la série de conférences qui portera sur le métier de journaliste. Elle a pour titre « Les dessous du métier de journaliste » et elle sera animée par deux journalistes. Vous pourrez retrouver sans doute des questions proches de celles que nous aborderons ce soir. Tout cela en pensant aussi qu'aujourd'hui, la liturgie nous invite à faire mémoire de saint François de Sales qui est le patron des journalistes. Alors, bonne fête au Père Lombardi, bonne fête à Jérôme Chapuis, bonne fête aux amis de la Croix qui sont dans la salle, et aussi bonne fête à notre provincial, François Boédec, car je sais que c'est aujourd'hui sa fête. Notre soirée va s'articuler en trois temps. Ce temps d'échange avec le Père Lombardi, tout d'abord, jusqu'à 19h30, puis un temps de prière dans l'église Saint-Ignace pour remettre à Dieu ce que nous travaillons ici. Et enfin, un dîner solidaire au profit d'un projet de JRS France, un camp de vacances en montagne qui associera une vingtaine de réfugiés avec une vingtaine de jeunes Français. Évidemment, la journée de grève que nous connaissons aujourd'hui a empêché pas mal de monde de nous rejoindre. Et peut-être encore plus pour la partie la plus tardive de la soirée, le dîner solidaire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir affronté ces difficultés et j'espère que le retour chez vous ne sera pas trop difficile. Je signale aussi que l'échange que nous allons avoir avec le Père Lombardi pourra être regardé sur YouTube. Et les personnes qui auraient souhaité, des personnes autour de vous, qui auraient souhaité pouvoir soutenir le projet JRS que nous présentons ce soir, peuvent faire un don en s'adressant directement à JRS. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Étienne Grieux. La Croix est très heureuse d'être une fois de plus partenaire du Centre Sèvres. Vous évoquiez Saint François de Sales. Un de mes collègues de la Croix me faisait remarquer ce matin que si l'Église n'avait pas toujours le sens de la communication, elle n'était pas complètement dénuée de sens de l'humour, puisque Saint François de Sales est non seulement le patron des journalistes, mais aussi des sourds-muets. Je ne serai pas complètement muet ce soir, mais il se trouve que la parole sera surtout donnée à des étudiants du Centre Sèvres. Père Lombardi, je vais vous les présenter avant que vous preniez la parole. Vous avez juste à votre gauche Emanuele, qui est italien, qui est moine bénédictin à Camaldoli, c'est en Toscane, Camaldoli, depuis maintenant 8 ans. Emanuele a fait ses études théologique ici au Centre Sèvres et maintenant en première année de thèse en théologie fondamentale. À votre droite, Florence, qui est britannique, qui est membre de l'église anglicane. Et quand elle n'est pas au Centre Sèvres, elle partage son temps entre sa famille nombreuse et une communauté de l'Arche à Compiègne. Et puis Cédric est scolastique jésuite, il est mauricien, il vit en communauté depuis maintenant 3 ans. À la Plaine Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et il est en dernière année de premier cycle, dit intégré, en philosophie et en théologie. Voilà. Je vais laisser tout de suite la parole à Florence.
Merci. Voilà, donc pour nous introduire un peu dans notre thématique de ce soir sur les trois papes que vous avez connus, une question tout simple, donc si vous pouvez nous raconter un peu à la fois vos bons souvenirs de travail avec eux et les moments où ils ont pu se faire entendre, trouver des bons gestes pour communiquer, et puis peut-être aussi les souvenirs un peu plus compliqués, les moments difficiles.
Alors, avant tout, merci pour Père Grieux, pour la présentation qui était trop positive de moi, mais quand même, merci à vous pour être ici à écouter cette conversation. Je suis très honoré d'être venu à Paris pour cette soirée et c'est une belle rencontre, j'espère, une soirée en amitié, en réfléchissant ensemble sur, sur les expériences de l'Église et avec les trois papes dans cette dernière décennie. Bien, alors pour ta question, si je dois répondre, je peux parler, je pense, toute une heure et demie sans raconter. Mais c'est mieux commencer avec des choses un peu courtes et petites. Alors, je voudrais raconter quelle est l'occasion qui m'a plus frappé dans le service de communication de Jean-Paul II. Alors, c'est une soirée dans laquelle j'étais alors directeur aussi du centre de télévision du Vatican. Alors, j'étais en charge d'organiser dans une soirée du pape Jean-Paul II avec les étudiants universitaires de Rome, d'organiser des liaisons satellitaires avec d'autres places dans lesquelles il y avait des étudiants universitaires réunis aussi en prière et avec leurs évêques. Alors naturellement, j'étais très préoccupé car organiser 5 ou 6 liaisons satellitaires contemporaines en direct pour avoir le pape en communication avec de différentes audiences, c'était quelque chose techniquement assez risqueux. Alors, eh bien, j'étais très, très préoccupé. Et à un certain moment, j'ai entendu Jean-Paul II, qui était déjà vieux, un peu faible, là, qui regardait dans l'écran et voyait Cracovie avec le cardinal Makarski. A commencé à crier, à dire « Quelle chose merveilleuse cette télévision, je suis ici et je peux voir mes anciens étudiants de Cracovie et le nouvel évêque qui est là et nous pouvons prier ensemble et parler et discuter ensemble comme ça. La télévision, c'est une chose merveilleuse et bénie. » Alors, je n'avais pas une grande idée de la télévision. Je ne suis pas très optimiste que tout ce qui se passe par la télévision, c'est bon. Alors, j'étais un peu pessimiste sur le service de la télévision qui nous voyons. Et alors, j'étais très, très profondément frappé que les papes, à travers de mon petit service avec le centre de télévision du Vatican, étaient tellement enthousiaste et avait une vision tellement positive de ce que le service des médias pouvait faire pour une expérience d'union de l'Église au-delà des frontières, d'universalité de l'Église. Et j'ai changé mon attitude totalement ces jours d'un certain pessimisme à un enthousiasme positif, c'est-à-dire, bien, le pape me dit que j'ai une mission de faire servir la communication et aussi la télévision à l'union de l'Église, à la compréhension du peuple, et que ma mission, c'est merveilleuse, et je dois aller au-delà de tous les problèmes que je vois, des dommages que la télévision fait, pour voir les positifs et pour promouvoir les possibilités positives que la télévision a. Naturellement, le discours peut s'élargir, c'est pas seulement la télévision, c'est tout la communication, c'est tous nos engagements. Mais il était vraiment un leader très fort des visions positives de la mission, dans la communication aussi, dans les autres engagements. Et ça a signé un peu ma vie et mon service dans la communication du Vatican. Alors, bien, je reste avec cette impression. Il était capable d'indiquer des missions, des vocations fortes. Et j'ai eu l'impression aussi que beaucoup de mes collègues journalistes, dans les temples plus heureux du pontificat de Jean-Paul II, et aussi dans d'autres temples heureux, sentent que leur vocation est a une dignité particulière. Et Jean-Paul II aidait à révéler la dignité de la vocation de la communication comme quelque chose qui peut construire une communauté et comme ça. Bien. Alors, ça, c'était le premier exemple pour Jean-Paul II comme grand leader capable de promouvoir enthousiasme, vocation pour la mission dans les médias et dans d'autres champs d'activité. Et pour Benoît XVI, j'ai une autre petite chose à raconter, c'est un peu différent. Alors, il y avait une occasion à la veille d'un voyage de Benoît en Allemagne, dans laquelle la télévision allemande avait demandé à Benoît de faire les Wort am Sonntag. C'est une très courte émission de 3 minutes, le samedi soir, pour le dimanche. Et c'est très suivi dans la télévision. Alors, je suis allé, comme directeur du centre de télévision, avec mes camarades, avec les caméras, ça. Et on avait un rendez-vous avec Benoît à Castel Gandolfo, car c'était le temple dans lequel il était à Castel Gandolfo. On a monté tout notre appareil, hein, et après, le pape est arrivé. Et alors, ils ont dit, où est-ce que je dois me mettre? Mais bien là. Bien, il savait qu'il y avait, il avait 3 minutes, et j'ai commencé à lui dire, mais vous pouvez être très tranquille, car nous pouvons couper, nous pouvons reprendre d'autres fois, alors s'il y a des fautes, quelque chose, il faut n'être pas préoccupé. Bien, alors il dit, bien, mais tu me dois dire quand je dois commencer. Alors, bien, j'ai dit, bien, commencez. Il a commencé à parler avec une clarté et un ordre, sans interruption, sans incertitude, avec une cohérence fascinante. Vraiment, on était vraiment fascinés par ça. Et à un certain point, il a terminé. J'ai regardé le montre, c'était 2 minutes 57 secondes. Alors, je suis resté, et aussi mes camarades sont restés absolument admirés. On dit, bien, c'est terminé, nous n'avons rien d'autre chose à faire, car c'est parfait. Alors, merci. Bon, ça, pour moi, c'est une expression assez typique de Benoît comme communicateur, car normalement, on pense, bon, les autres, Jean-Paul II et François sont des grands communicateurs, Benoît n'est pas un grand communicateur, il est professeur, il y a du vrai dans le sens que c'est une autre façon de communiquer, mais dans sa façon de communiquer, qui est un discours clair, ordonné, précis, sans certitude comme ça, il est vraiment une champion du monde. Ça, dans ce sens, j'ai eu une expression typique de sa façon de communiquer. Et j'ai admiré beaucoup. Et le troisième épisode, et après je dois terminer car sinon je prends trop de temps, et c'est un peu différent, et c'est un peu de comparaison entre Benoît et François. Alors, comme directeur de la salle de presse, je devais aller naturellement à m'informer après chaque audience du pape avec un chef d'État, à voir qu'est-ce qu'ils avaient dit, et pour faire un communiqué et pour dire quelque chose aussi aux journalistes. Alors j'avais le permis, après l'audience, quand le chef d'État était parti, d'entrer chez le pape et lui demander « Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ?»« qu'est-ce que vous avez dit ?» Et je le fais systématiquement. C'était mon occasion régulière d'aller chez le pape et de parler un peu avec lui. Alors, Benoît me disait bien asseoir ici. Et alors nous avons parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Je dis ça, je dis ça, je dis ça. Il a dit ça, ça et ça. Bon, 3 minutes, c'était terminé. Absolument clair, avec une clarté, une systématique et fantastique. Bien. Alors j'ai parté, j'ai allé chez le secrétaire d'État pour voir ce qu'il avait dit aussi avec le chef d'État et faire le communiqué final. Quand François a commencé à faire le pape, je suis allé dans la même situation après les audiences. Alors il dit, ah bien, bien, viens. Et alors il me disait, ah... Cet homme, c'est un homme sage. Alors, je suis un peu diffident, car il ne me semble pas qu'il dit toujours la vérité. Il m'a parlé de sa famille, et c'est un bon père de famille, comme ça. Alors, j'ai compris que c'est un peu différent, là. L'attitude. Mais ça, c'est vraiment utile à comprendre la personnalité, car pour Benoît, c'était la primauté du contenu conceptuel, hein, le contenu du dialogue, ce qu'on avait dit, la réponse. Pour François, la primauté, c'était la rencontre avec la personne. Ça, c'est évident. Alors, il laissait au secrétaire d'État et aux autres de discuter les problèmes concrets. Quelquefois, naturellement, il faisait aussi des points. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était d'établir avec cette personne un contact et une communication, si possible, personnelle, pour avoir aussi un engagement, peut-être, après, et pouvoir lui proposer des choses, comme ça. Alors, bon, j'ai terminé. Je pense qu'il soit clair.
On va donner la parole à Cédric.
On va essayer de faire en 2 minutes 57. je me posais la question. Voilà, vous décrivez 3 personnalités, 3 styles, et... Comment vous adaptez-vous à ces 3 styles? Comment porter la parole de 3 personnalités différentes? Est-ce que ça vous change, vous, finalement?
Et, c'est une bonne question, naturellement, assez personnelle. J'ai toujours interprété ma mission comme un service. Pas comme une profession... dans laquelle je devais avoir, je ne sais pas quoi, une personnelle possibilité de m'exprimer, de dire quelque chose. Non, c'était un service. Alors, la personnalité qui parlait, c'était le pape. Alors, et je devais essayer de m'adapter à cette personnalité, s'il me demande des conseils ou d'aide. Bien, avec grande humilité, je peux dire aussi mon avis. Mais surtout, je dois essayer de comprendre sa façon d'être pape et communicateur et de valoriser le plus possible avec ma collaboration ce qui sont les points forts et dépasser les points faibles et comme ça. Alors, c'est servir... Le pape, pour moi, comme communicateur, naturellement, hein, et entendre ce qu'est le style. Et c'est vrai que c'était des personnalités très différentes. Dans le cas de Jean-Paul II, je n'avais pas une fonction comme directeur de la salle de presse, mais j'avais une fonction assez importante, surtout dans les dernières années, de Jean-Paul II comme directeur du centre de télévision du Vatican. Alors, vous savez que les dernières années de Jean-Paul II étaient les dimensions de la maladie, et pas d'une maladie invisible. C'était une maladie très évidente. Hein. Et utiliser chaque jour la caméra pour reprendre le pape et pour le communiquer au monde. Ça, c'était une très grande responsabilité. Et, mais il voulait ça. Alors, ça, c'est une des choses importantes de l'expérience avec Jean-Paul II. Il avait décidé d'être transparent et d'être vu dans sa souffrance, dans sa maladie. Il avait été le premier à dire à l'Angelus qu'il avait une tumeur dans l'abdomen 20 ans avant. Mais après, il a vraiment voulu continuer à faire son service et donner son témoignage devant le monde comme personne qui est capable de souffrir dans la foi et en solidarité avec tous les souffrants du monde.
Mais est-ce que certaines personnes ont cherché à le dissuader de montrer ainsi cette... Parce que vous semblez dire que ça ne va pas de soi.
Bon, ça c'était vraiment un peu le problème de notre service. Jusqu'où tu dois faire voir la souffrance d'une malade de Parkinson et quand tu dois laisser de le montrer car ça devient comme un manque de respect pour la souffrance. Ça, c'est quelque chose d'un discernement continuel. Hein. Et je pense qu'il y a des expériences de faire des télévisions connaît cette situation. Et avec le pape, c'était naturellement une chose importante. Et alors, le service du pape, alors, c'était servir en l'aidant à donner son témoignage des souffrances devant le monde avec respect et avec dignité. Et j'ai une grande gratitude pour mes collaborateurs qui aimaient vraiment le pape. Alors, je pense, j'ai toujours dit que ça, c'est quelque chose dans lequel l'amour est très important, car l'intuition de la balance entre la transparence et le respect, c'est quelque chose qui vient à toi de l'amour que tu as pour la personne que tu représentes. Et pour nous, c'était une expérience très importante. Et j'ai aussi grande gratitude pour Mgr Dziwisz, qui était un peu le seul interprète que nous avions pour arriver vraiment à comprendre ce que le pape voulait ou non. Bien.
Qui, à l'époque, faut le rappeler, exerçait vraiment les fonctions de secrétaire particulier aussi. Mgr Dziwisz, rappelez les fonctions peut-être qu'il occupait à l'époque.
Oui, il était le secrétaire personnel du pape. Alors, il n'avait pas n'était pas le secrétaire d'État, n'était pas le substitut de la secrétaire d'État, mais il était le secrétaire personnel de lui. Bien. Alors ça, c'était un peu pourquoi j'ai dit ça?
comment bien, rendre
on change aussi la fonction et la façon de les dresser. Oui, ça, avec Benoît, la chose c'est intéressant. J'ai eu immédiatement, quand j'étais nommé directeur de la salle de presse, je passe à une autre forme de service, que le pape voulait que mon service soit bien intégré avec le service de la secrétaire d'État. Car avec une porte-parole qui a une personnalité et qui est capable de communiquer directement avec le pape, tu peux avoir comme une double voie de communication. Alors, le porte-parole dit des choses, ou a une certaine ligne dynamique, et la secrétaire d'État une autre. Hein. Alors, ça peut donner quelques problèmes. Alors, avec une personnalité très forte et brillante comme Navarro, ça a été un peu un des problèmes de la communication en relation avec la secrétaire d'État. J'ai une grande admiration pour Navarro, je ne veux dire pas ça comme une note négative, mais ça c'était une problématique qu'il y avait. Alors, quand j'étais nommé, j'ai eu l'impression qu'on attendait des mois d'avoir une intégration plus stricte, c'est-à-dire renoncer un peu à la relation personnelle directe avec une interprétation plus personnelle de la relation avec le pape, mais être plus intégré avec aussi la communication de la secrétaire d'État et toujours en contact avec eux. Hein. Alors, dans ce sens, c'est un exemple de comment tu dois t'adapter à une situation et à une demande qui est différente. Avec Jean-Paul II, c'était différent. Il était le grand leader qui a eu le service d'un grand communicateur avec lequel il a fait aussi un rapport plus direct. Hein. À moi, on a demandé avec Benoît, qui était une personnalité différente, hein, un autre type de service. Et avec François, naturellement, la chose s'était changée encore. Hein, car avec Benoît, qui était allemand, j'avais un peu imaginé que l'idéal du service du porte-parole, c'était de prévoir le mieux possible ce qui se passe pour se préparer bien, préparer des hypothèses de communiquer, préparer des hypothèses de conférences de presse pour présenter des documents, pour présenter les activités du pape, et comme ça. Hein. Alors, on essayait de faire des pas dans cette direction. Quand est arrivé François, alors ça, l'horizon s'était complètement changé. Alors que chaque jour, on avait, surtout dans les premiers temps, on dit que le pape a téléphoné à quelqu'un en Argentine qui dit ça, et ça, bon, qu'est-ce que tu dois faire? On dit que le pape est sorti du Vatican et allé acheter les lunettes. Ou on dit que le pape a rencontré à la maison Sainte-Marthe cette syndicaliste qu'il connaissait et qu'il a parlé. Bon, alors, la surprise, c'était l'ordinaire. Mais ça, c'est intéressant aussi, car tu dois comprendre qu'il y a un message positif dans cette surprise. Hein? N'est pas seulement qu'il a décidé de changer ou il a un style différent, mais il a un message, c'est-à-dire, je suis pape, mais je suis aussi un homme qui a ses relations, qui a une certaine liberté de les manifester, ou je ne suis pas prisonnier d'une structure, hein, et je suis libre alors de prendre des initiatives qui ne sont pas prévues. Alors, c'est un message assez important aussi. Mais naturellement, je devais apprendre et m'adapter. C'est-à-dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une nouvelle d'un coup de téléphone du pape quelque part dans le monde, ou qu'est-ce qu'on fait si on dit qu'il a reçu une personne que tu n'avais pas prévue. Alors, il y a naturellement des situations dans lesquelles tu dois vérifier et demander information, car ce sont des choses importantes. Il y a d'autres dans lesquelles tu apprends à dire, bon, le pape a ses relations pastorales personnelles, et ça n'est pas question de journaliste ou de moi, il peut le faire sans demander l'autorisation. C'est comme ça. Et je me rappelle une occasion dans les premiers temps du pontificat qui était assez caractéristique avec la question des coupes de téléphone. Hein, alors, un matin, j'étais dans une réunion, je ne sais pas, et on vient quelqu'un me dire, il y a un grand mouvement entre les journalistes car on dit que ce matin, le pape a parlé au téléphone avec le président Assad de la Syrie. Hein? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, j'étais assez préoccupé, car ça, c'est une chose importante. On n'était pas le portier de la... Bon. Et alors, je suis parti immédiatement, car c'était une chose qui pouvait monter naturellement, rapidement. Je suis parti, et je suis allé à la porte de la bibliothèque privée du pape, dans laquelle il faisait les différentes audiences. À un certain moment, j'ai vu que la personne qui était là est sortie, alors je me suis précipité au-dedans, et le pape était avec un verre d'eau. Il m'a vu arriver comme ça, il me dit, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai dit, est-ce que vous avez téléphoné avec Assad ce matin? Moi, Assad. Merci, merci, je suis parti. Je suis allé éclairer la question. Bien. Alors, mais naturellement, c'est un peu une école de s'adapter à la situation, car il y a une façon différente qui a des messages très positifs, naturellement, comme je disais avant. Hein. Mais le rythme et la situation étaient difficiles, et la façon de faire aussi le porte-parole était différente.
Emmanuel va avoir une question. Avant cela, il nous a semblé intéressant de vous montrer un très court montage de vidéo de ces trois papes qui sont aussi donc des hommes d'image. On va les regarder ensemble et puis ensuite on donnera la parole à Emmanuel.
Et c'est une très bonne question, un peu compliquée, mais très bonne. Alors, c'est vrai, il faut exercer continuellement une herméneutique du magistère ou des messages des papes et de l'Église en général, mais nous parlons du pape. Il y a des différents genres d'expressions, naturellement, et il faut bien les distinguer et bien comprendre la valeur et la façon de les interpréter. Alors, par exemple, avec François, il a, comme tu as dit, des documents officiels, des encycliques, par exemple, Laudato Si, c'est naturellement un document très important, systématique, bien exprimé, bien étudié, dans lequel les mots ont été choisis avec soin, hein, les virgules sont en signification. Alors, il faut le prendre avec une grand sérieux, aussi dans le particulier et dans la formulation. On a, avec François, on a d'autres choses. On a l'homilie chaque jour à Sainte-Marthe. Ça, c'est aussi une grande nouveauté. Pour moi, à le commencement du pontificat, c'était une des nouveautés majeures du pontificat. Cette pastorale quotidienne du pape comme prêtre qui parle au peuple de Dieu avec spontanéité et dans une façon très directe, en réalisant ce qu'il avait dit sur l'homilie dans son dissertation Evangelii Gaudium et comme ça. Bon, et ça c'est une autre chose naturellement. C'est un genre des pastorales, d'expression pastorale, mais c'est une expression pastorale orale. Et nous avons insisté, depuis le commencement du pontificat, de ne pas publier un texte écrit complet, une transcription complète des homilies de Sainte-Marthe, car ça serait changer le genre de communication, car une communication spontanée, sans écrit, en dialogue avec l'audience. C'est une autre chose de s'exprimer. Si tu dois faire un texte écrit, tu changes, tu corriges, comme ça, c'est une autre chose. Alors, nous avons fait des résumés avec des citations, naturellement, oui, mais nous avons toujours même pas voulu avoir la transcription systématique, car c'est une expression qui est par sa nature orale. Après, il y a, par exemple, les genres fameux des interviews en avion. Alors, ça, c'est un autre genre aussi, qui François a interprété dans une façon différente de pape précédent. On peut parler aussi de ça, mais quand même, on parle de François. Alors, François a voulu faire ça à la fin du voyage pour ne pas conditionner le voyage même, hein, quand le voyage est terminé, alors on peut parler avec le journaliste et faire la conversation. Et la faire avec une abondance de temps qui m'a vraiment frappé. Dans le premier voyage intercontinental, il a parlé par 1h30. Et plusieurs fois, je disais, ça suffit. Non. S'il y a encore des questions, bon. Alors, 1h30. Et aussi, beaucoup d'autres fois, au moins 1h. Et ça, c'est quelque chose que je peux juger surtout sur les premières années, pas sur les dernières. C'est une chose qui avait une efficace formidable des communications avec les journalistes. Car je me rappelle un de mes collègues qui était un des plus importants d'une agence de diffusion mondiale et qui me disait, mais ça c'est merveilleux car il n'y a personne au monde qui soit disponible à parler avec nous dans cette façon, avec cette liberté et cette spontanéité. Hein? Tu as les grands leaders politiques, ça, bon, ils sont organisés avec leurs communicateurs, ça, ils viennent et ils parlent. Et ça donne un sens de liberté, de proximité, de spontanéité très grand. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas naturellement définition, la précision d'un texte écrit, d'un texte réfléchi, car il est spontané en dialogue avec toi. Hein?
Mais ça comporte un risque, parce que c'est le risque d'être mal compris,
oui, naturellement.
De provoquer des emballements.
Oui, et il y a aussi le risque de dire des choses dans une façon pas précise ou pas exacte. Le risque est là, naturellement. Mais le message global d'être en dialogue avec toi, en recherche de la vérité ou des solutions, des questions que tu as posées, hein, comme une personne qui cherche avec toi un chemin et qui ne dit pas d'avoir le dernier mot parfait et précis chaque moment, ça, c'est aussi un grand message. Hein. Alors, il faut évaluer un peu la balance des avantages et risques. Hein. Dans mon expérience, j'ai évalué que l'avantage était plus grand. Car aussi, normalement, avait l'effet de procurer une attitude positive de la part de la personne qui écoute. Hein, qui comprend, s'il n'est pas stupide, que ça, c'est une expression qui n'est pas l'expression étudiée dans les particuliers, qui est une expression en marche, qui est une expression de recherche avec toi. Et ça donne une attitude très positive qui permet aussi d'interpréter positivement des choses dans lesquelles on a quelque chose qui n'était pas tellement parfait. Alors, dans ce sens, je pense que c'est un autre genre. Et on doit prendre tous ensemble, je pense, les différents genres et être capable de voir le sens d'un message unifié qui le pape te veut dire, non, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la proximité de Dieu, c'est la, et tout le retrouve dans les différentes formes d'expression, hein, mais avec des façons différentes.
Là, vous nous parlez de la parole des papes et la parole de l'Église. Ce matin, il y avait un article publié dans La Croix dans lequel vous disiez à juste titre que la parole de l'Église, c'est bien la parole de chacun, c'est pas seulement la parole du pape. Mais on a l'impression d'assister aujourd'hui à une évolution où c'est vraiment l'image du pape François qui prend une place très centrale. Comment est-ce que vous voyez ça?
Ça, c'est une bonne question. Je suis content de pouvoir dire que je suis d'accord. J'ai toujours dit l'Église n'est pas le pape. Hein? Alors, et quand on parle des communications ou d'expression de l'Église dans le monde aujourd'hui, Le pape a naturellement une fonction fondamentale, mais n'est pas tous. Il y a les évêques, il y a les communautés locales, il y a les laïcs engagés, il y a les témoignages de personnes qui vivent leur foi dans les différentes situations. Tout ça ensemble, c'est l'Église qui parle au monde, qui s'exprime. Tout ça ensemble. Quand j'étais directeur de Radio Vatican, j'avais élaboré une stratégie qui disait, bien, nous faisons la communication de ce que le pape fait ou le Vatican fait comme un service qui nous mettons à disposition des églises locales qui doivent avoir leur moyens de communication, les expressions, et s'ils sont intéressés à intégrer dans la façon appropriée la communication de la dimension universelle de l'Église qui vient du Vatican, nous, c'est notre contribution, naturellement, mais n'est pas tous. Il faut avoir les différents niveaux intégrés. Il y a les dimensions universelles avec le pape, le Vatican, il y a la dimension du siège, des conférences épiscopales, des églises locales, des communautés locales, et tout ça, c'est communication qu'il faut intégrer. Mais tu as raison, et je pense que cette belle stratégie que j'avais imaginée et soutenue pendant 15 ans à peu près a été confondue totalement par les changements de la communication aujourd'hui avec les social media et comme ça et avec l'Internet qui a un peu globalisé la communication à tous les niveaux car une fois, tu avais vraiment des différentes régions de communication. Maintenant, tu reçois une nouvelle qui vient de l'Australie et tu dis bien, alors tu discutes de ça avec les autres. Et ça me pose des problèmes. Je n'ai pas encore bien appris comment vivre dans cette situation, mais nous devons vivre dans cette situation. Et dans cette situation, naturellement, une personnalité forte du pape concentre l'attention et assume un poids très grand dans la communication d'Église, car il semble qu'il s'identifie. Mais ça n'est pas bon. C'est bon qu'il communique bien et qu'il donne de bons messages, mais n'est pas bon que tu penses que toute l'Église est là. Dans ce sens, je crois que nous devons apprendre à vivre dans cette situation en appréciant les différentes contributions. C'est une grande contribution que le pape nous donne, mais il faut aussi conserver et vitaliser la communication locale, la communication de l'Église locale, comme ça, sinon ce n'est pas sain.
Alors, vous évoquiez la parole très spontanée du pape François. Ce qu'il y a de particulier aussi dans les trois papes que vous avez connus, c'est qu'il y en a deux qui parlent en même temps, dans un même espace.
Maintenant.
Oui. Alors je fais bien sûr référence au phénomène éditorial actuel, avec la publication.
Alors, maintenant, ils sont pratiquement 7 ans hein, qu'il y a deux papes, pour ainsi dire. Alors, il y a un pape, nous savons bien ce que ça veut dire, et il y a un pape émérite. Bien. Alors, mon évaluation, c'est que dans 7 ans, ça fonctionnait assez bien. Hein, car, vraiment, l'attitude du pape François a été vraiment fantastique, exemplaire, très gentil, allant à faire Noël, la Pâques, et à présenter les nouveaux cardinaux d'un pape émérite, et comme ça, c'était fantastique. Et Benoît aussi, pour la connaissance que j'ai, c'est un homme très, très discret et très respectué. Et il a plusieurs fois, je ne sais pas bien, après, on parlera de cette dernière question. Mais il avait toujours demandé informer le pape et demander s'il y avait des difficultés pour écrire ou publier d'autres choses qu'il avait préparées dans une façon très discrète. Naturellement, je pense bien, mais c'est une personne, Benoît, qui a toute sa lucidité de mentale, de parfait, hein, la mémoire aussi, ça. Ils sont 7 ans qu'il vit, et avec cette capacité de réfléchir, d'écrire comme ça, et il est très discret. Il a publié très peu de choses, normalement. Et dans ce sens, je pense que comme évaluation, on doit dire, c'est aussi de la part de Benoît, il y a une grande discrétion et il a vraiment réalisé cette vie de retraite, de prière, en réfléchissant et en s'exprimant publiquement très peu de fois. Mais naturellement, si la chose continue très longtemps, et on a quelquefois quelques risques. Surtout s'il y a quelqu'un qui pense d'utiliser la coexistence pour soutenir des positions qu'il a et qui ne sont pas favorables à François. Il y a un certain risque d'instrumentalisation, ça c'est absolument clair. Mais en général, je pense qu'il se passe bien. J'ai reçu la charge d'être le président de la fondation Ratzinger. Alors, je n'ai rien à faire avec les livres de... Alors, ça, c'est une charge qui vient de l'administration des revenus de droits d'auteur de Ratzinger comme théologien avant d'être pape. Il a reçu des droits d'auteur et il a décidé de le mettre à disposition d'une fondation pour promouvoir des activités culturelles, donner des bourses d'études, organiser des colloques, comme ça. Alors, moi, comme responsable de cette fondation, j'ai toujours programmatiquement travaillé pour mettre en évidence la continuité et l'accord ça, c'est absolument clair. Et je pense qu'il soit possible que je pense de l'avoir fait. Mais naturellement, quelques risques il y a, comme on a vu dans cette dernière occasion. Mais peut-être qu'il faut revenir sur ça.
On peut revenir sur cette idée, parce que vous avez parlé de la question de la continuité entre les pontificats. Et notamment entre ces deux pontificats, on pourrait parler de la continuité entre les trois que vous avez connus, mais entre ces deux-là, qui est quand même très particulière, parce que nous sommes dans une situation historiquement très particulière. Et vous avez l'air de considérer que c'est possible que deux papes, même si vous nous avez dit qu'il n'y a pas deux papes, mais sur les images qu'on a vues tout à l'heure, ils apparaissent tous les deux en blanc. Donc symboliquement, vous avez l'air de considérer que c'est possible d'organiser cette continuité. Y a-t-il des choses à améliorer pour qu'au moins en termes de communication, cette continuité peut-être se fasse un petit peu mieux?
Bon, oui, mais si on me demande une évaluation globale, je dis en 7 ans, c'est déjà une expérience assez positive. Hein On aurait pu avoir beaucoup plus d'occasions d'équivoques ou des différences ou des personnes qui peuvent utiliser ça de plus. Je pense que c'est le bilan général, c'est positif. Naturellement, les risques sont là, mais ça dépend aussi des positions qu'il y a, différentes positions qu'il y a dans l'Église, dans les communautés, et chacun essaye toujours de trouver des façons de alimenter des tensions ou des oppositions pour soutenir sa position. Mais ça, c'est un problème qui est vieux comme le monde. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça.
Pour avancer dans les discours, comme on est dans la semaine de prière pour l'unité de chrétiens, ça pourrait valoir le coup d'honorer cette thématique de l'œcuménisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces trois papes face à l'œcuménisme?
Oui, toutes les fois que j'ai réfléchi sur ça, j'ai trouvé une continuation et un progrès. Alors ça, c'est quelque chose, il faut remonter au concile. Il y avait déjà le mouvement œcuménique avant le concile, mais quand même, le concile a été une étape fondamentale avec l'unitatis et l'integratio et comme ça. Et après, on a eu, en commençant avec Paul VI, des actes continuels, des initiatives œcuméniques très fortes. J'ai pensé à ça quand tu as montré l'image de François qui baiser les pieds. Bon, le premier qui a baisé les pieds, c'était Paul VI, qui a baisé les pieds de Méliton quand il était venu pendant le concile et pour faire un signe public de réconciliation et d'humilité pour dépasser l'excommunication mutuelle. Comme ça. Alors ça, ce sont des signes forts, mais ont une histoire. Et aussi, Paul VI avait fait dans la direction de l'œcuménisme, déjà beaucoup. Jean-Paul II est énorme. Jean-Paul II a été 26 ans pape. Alors, il a fait tellement de choses qu'il n'est pas possible de faire plus que comme quantité, plus que Jean-Paul II. Et, alors, mais il a fait grand pas, il a fait le voyage dans les différents centres des différentes confessions et comme ça. Benoît a continué et a fait, et chacun a fait aussi quelques pas nouvelles. Hein. Et Benoît était allé à Erfurt pour rencontrer les luthériens. N'est pas une petite chose. C'était un moment très, très émouvant et très important. Alors, mais si on fait une étude, on trouve beaucoup de pas nouveaux. Et François, finalement, a réussi à rencontrer le patriarche de Moscou, par exemple. Non. Alors, mais il y a une continuité d'engagement sans incertitude dans la ligne de l'œcuménisme entre les chrétiennes. Et, je dirais aussi, dans la ligne de dialogue interreligieux. Hein. Tu as montré Assise, c'est un grand pas de Jean-Paul II. Mais aussi les autres ont continué. J'ai réfléchi plusieurs fois. Jean-Paul II, dans 26 ans de pontificat, a visité une mosquée, on dit mosquée, mosquée, et une synagogue. Benoît, en 4 ans et en 8 ans, a visité 3 mosquées et 3 synagogues. Maintenant, on ne compte plus. Ce n'est pas nécessaire. C'est devenu normal. Alors, ça, c'est, pour moi, c'est un grand progrès. Alors, ce sont des choses qu'on disait, elle était historique, c'est la première fois qu'il se passe. Maintenant, c'est normal. C'est normal. Ça, c'est un grand pas en avant. Et François, avec la culture de la rencontre, c'est naturellement à une capacité particulière. Je pense en particulier à des choses qui sont de grande actualité. Son amitié fraternelle avec le patriarche de Constantinople. Alors, il semble qu'il soit à sa maison quand il vient au Vatican. Il est toujours à Rome, Bartholomée le premier. Ça, c'est une relation vraiment fraternelle. Et maintenant aussi, la relation avec l'imam d'Al-Azhar, Al-Tayeb, c'est devenu une relation fréquente. Et je me rappelle du temps dans lequel Torrent aussi avait des difficultés à parler avec lui, on avait des tensions. Mais maintenant, on a eu plusieurs rencontres, on a eu la fameuse déclaration sur la fraternité universelle, qui est un pas en avant formidable, historique, hein, du dialogue avec l'islam, et pas seulement, car ça devient une déclaration qui peut être enlargie. Alors, dans ce sens, je vois une progression continuelle, et sans incertitude et sans coup en arrière, aussi s'il y a des temps qui sont plus favorables, peut-être dans une communauté, avec une communauté, avec l'autre, mais la mouvance en général, c'est clair, hein, c'est fidèle au concile.
Je précise que nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et que dans quelques minutes, les micros circuleront pour que vous puissiez vous aussi poser quelques questions. Florence.
Oui, dans vos souvenirs, vous mettez beaucoup l'accent sur la continuité entre les papes, alors qu'on peut avoir l'impression qu'il peut y avoir discontinuité aussi. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est l'image que certains médias vous nous proposez, ou est-ce qu'il peut aussi avoir des discontinuités importantes?
Bon, je voulais dire, parler de la continuité, c'est mon métier. Mais je le fais avec conviction. Je suis convaincu que si on regarde le service du pape à l'Église, alors il y a 90% c'est continuité, c'est le service de l'annonce de la foi de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui, c'est le service de l'humanité, c'est le service de la paix, c'est le service de la justice, c'est le service de... Alors ce sont toutes les choses qu'on peut continuer à énumérer et dans lesquelles il y a continuité totale. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que tu ne dois pas annoncer l'amour de Dieu pour les personnes. Il y a peut-être des accents ou des façons différentes de les réaliser aussi. Là. Mais par exemple aussi l'accent de la miséricorde, la vision de la miséricorde a une grande continuité depuis Jean-Paul II, diversi miséricorde à la dimanche de la miséricorde, comme ça. Et maintenant, on a eu une progression, je pense, avec les jubilés de la miséricorde, avec les vendredis de la miséricorde qu'il a inventé et continue à faire. Et comme ça. Mais c'est naturellement, c'est une... Et ça, c'est le centre de l'Évangile. Et ça, c'est en continuité. Naturellement, on a aussi des différents accent ou de différentes sensibilités, mais je ne pense pas qu'ils sont dans l'essentiel ou qu'ils sont quelque chose qui nous met en crise. Je ne pense absolument pas. Naturellement, aussi dans la chose de la liturgie, on avait eu avec Benoît la question de la relation avec les Février, non, par exemple, ou le ritus extraordinarius qui a donné un peu de problèmes ou de questions. Ça, c'était pas exactement en continuité avec ce que Paul VI avait fait, ça c'est évident. Mais n'était pas contre la foi. Il a toujours insisté, et un rite extraordinaire n'est pas le rite ordinaire. Alors, tu peux voir les choses aussi dans le sens d'une continuité sans vraie rupture, je pense.
Je voudrais juste, avant que vous preniez la parole, que vous nous racontiez comment vous avez vécu ce moment tellement particulier dans l'histoire de la démission du pape Benoît XVI à la place qui était la vôtre.
Ah bon, oui. On me l'a demandé beaucoup de fois. Normalement, j'ai dit avec une certaine surprise de l'audience qui n'était pas pour moi le moment plus difficile ou plus problématique de mon service. Si je dois dire ce qui m'a plus fait souffrir, c'est toute la question des abus et que j'ai suivi naturellement pour des années avec une souffrance très grande en solidarité avec Benoît. Bien, mais pour la démission, pour moi, n'était pas une grande surprise. Hein? car pour moi c'était très clair, il avait affirmé dans le livre « La lumière du monde », si vous l'avez connu, c'est une des livres interviews de Benoît avec Sewald. Il avait une question très précise par Sewald. « Qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle démission ? Est-ce que vous pensez de ça ?» Et il avait répondu « Si le pape se rend compte et pense qu'il n'est pas plus en condition de faire... bien dans la, son service pour l'Église, alors il peut, quelquefois il doit démissionner. Alors, bah, pour moi ça c'était absolument clair, n'était pas, il ne l'avait pas dit dans un temps de possible démission, car c'était un temps de bonne santé et normal, et c'était 4 ans avant, je pense, la démission ou quelque chose comme ça.
Mais ce jour-là, vous, évidemment, mais, vous ne vous y attendiez pas.
Les jours là, j'étais mis en garde quelque temps avant, pas beaucoup, pas longtemps, pas avant, mais quand même, dans les mois précédents, dans les temps précédents. On avait compris qu'il réfléchissait sur ça, car il avait dit, par exemple, je ne peux plus faire des voyages longs au dehors de l'Europe. Ou il avait dit dans les voyages au Liban, ça c'est le dernier voyage international que j'ai fait. Ou j'avais noté dans toutes les célébrations de Saint-Pierre qu'il avait commencé à utiliser la plateforme mobile comme Jean-Paul II dans les dernières années. Et pour moi, c'était clair qu'il ne pouvait pas cette année faire les célébrations de la Semaine Sainte dans une façon normale, car il n'avait pas plus les forces pour le faire. Alors, bon, alors il y avait toute une série de situations dans lequel, si j'ai rappelé le mot que j'avais dit, bien, alors, bon, n'est pas maintenant, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans... Alors, mais n'était pas une surprise pour moi. Et pour moi, le mot de la lumière du monde et les deux canons de droit canon qui dit que le pape peut démissionner, ont été suffisants pour moi pour aller à faire le briefing avec le journaliste le jour qu'il avait dit qu'il démissionnait, avec le texte pour moi très très bien fait de avec lequel il a déclaré sa démission. Et j'ai toujours polémisé très durement contre ceux qui continuent à dire mais nous ne savons pas quelles sont les vraies raisons de sa démission. Pour moi, un homme clair et cohérent comme Benoît nous a dit ça, c'est raisonnable, c'est clair, c'est pour moi idiot aller à chercher d'autres raisons comme les vraies raisons.
Un micro va circuler. Peut-être... N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez poser une question. Nous avons encore de nombreuses questions de notre côté, mais ce serait bien. Voilà, je vois des mains qui se lèvent.
Oui, je pense que votre interlocutrice voulait vous parler des moments de stress les plus importants que vous avez eus, c'était ça ? Et les moments de stress, en fait, ont été dédramatisés par les papes eux-mêmes, ou vous avez d'autres exemples de pur stress non amenuisé?
Bien. Naturellement, on peut rappeler les moments historiques un peu de crise, c'est-à-dire après le discours de Ratisbonne ou après les cas Williamson. C'était des moments assez difficiles, évidemment. Mais ça, ce sont historiques, c'est bien, très bien, très bien connu. Alors, ce que j'essayais de faire, c'était naturellement de suivre la situation, de donner des réponses, graduelle, essayer d'être rapide à donner des premières réponses pour ne donner pas un espace vide, un silence qui est très dangereux, mais commencer à faire un discours avec des réponses qui peuvent être graduellement plus riches et plus complets. Par exemple, pour la question du discours de Ratisbonne, pour moi, la conclusion réelle était 2 mois après, quand Benoît a visité la mosquée bleue d'Istanbul. Alors ça, dans ce jour, quand j'ai vu Benoît dans la mosquée avec l'imam, attitude de prière, j'ai dit, bien, alors la question c'est résolue. Mais avant, il y avait toute une série, naturellement, de réponses à donner, de critiques à assumer, et comme ça. Un autre cas assez fameux, ça, un peu avec la question de l'évolution des technologies, c'était la fameuse question des condoms sur l'avion de l'Afrique. Car
dans l'avion.
Oui, ça c'était c'est assez caractéristique du problème de la communication, car et pour moi il y avait seulement un mot qui était erroné dans la réponse de Benoît. C'était pire, c'est-à-dire qu'il disait que avec une diffusion de condoms systématique, la situation était pire. Alors ça, c'était dramatique. Mais le sens, c'était qu'il disait la vraie solution, c'est dans la formation, dans l'éducation et dans la responsabilité. Si tu évites tout ça et tu fais seulement la diffusion de condoms, alors ça, c'est pire. Mais quand même, le mot pire dans le sens de la communication était mauvais. Mais la question que je voulais dire, c'est qu'avec l'évolution de la communication, les journalistes ont téléphoné de l'avion, ça, directement de l'avion, et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, La chose était déjà décidée dans un sens négatif très répandu en Europe avec les déclarations de toutes les personnes. Je ne pouvais pas faire beaucoup alors. Mais ça te dit qu'avec l'évolution de la communication, de la technologie et de la rapidité de la communication, la situation change naturellement.
Une autre question? Oui.
Voilà, moi je me souviens de l'élection du pape François et de ma joie de voir le premier pape non-européen, voilà, latino-américain, avec, voilà, donc on sort du continent et on exprime une nouvelle culture avec tout ce qu'elle a. Bon, alors ma question c'est un peu ça, autour de la culture. Est-ce que le fait qu'il soit d'un autre continent... ça a une influence sur la communication et en quoi une nouvelle culture comme ça change les rapports, la manière de communiquer dans l'Église, offre un nouveau souffle, on pourrait dire, dans les relations, quoi, ou dans le rapport voilà, au monde public ou à la manière d'être.
Sûrement, c'est une grande nouveauté d'avoir un pape qui n'est pas européen. Et ça donne une perspective différente, car il a une vision de la géopolitique, pour ainsi dire, géopolitique ecclésiale, qui est différente. Il a dit, avec une belle expression, « Je le regarde de Magellan ». Magellan, comment dit, hein? Car, c'est-à-dire, une chose, c'est voir le monde de Madrid, quand elle était la capitale la plus importante, et une autre chose, c'était voir le monde de la fin du monde, où Magellan était arrivé à la fin du continent, du continent sud-américain. Et ça, c'est vrai. Et ça est perçu dans le monde, comme tu as bien dit. Alors, je pense que réellement, on peut voir, c'est une chose différente de voir un pape européen, de culture européenne, et un pape qui n'est pas européen. Hein? Aussi, ça, un peu le discours qu'il fait de voir les choses depuis les périphéries, hein, et pas du centre, s'exprime aussi dans cette provenance géographique de son expérience personnelle et de sa culture. Et ça aide, en certains sens, aussi la vision universalistique que l'Église a. Je pense que la Laudato si, qui pour moi c'est un peu encore le document le plus expressif de son magistère comme réponse aux questions du monde entier, manifeste cette vision globale. Et je pense que aussi sa provenance non européenne a aidé à ça et a aidé le monde à percevoir ça. Aussi, c'est très intéressant quand les leaders européens sont venus au Vatican pour le prix Charlemagne qu'on lui a donné. Et j'étais très très frappé du fait que les leaders européens venaient très intéressé à écouter ce qu'une pape non européenne va leur dire. Et paradoxalement, il avait une autorité plus grande qu'une pape européenne, c'est-à-dire car il peut voir à l'Europe d'une perspective différente et pas conditionnée par être européenne. Dans ce sens, je pense qu'il soit... Bon, dans la vie de l'Église, après on peut parler de la synodalité, de la vision du peuple de Dieu comme ça, qui est aussi quelque chose qui dans l'Église de l'Amérique latine on a développé, approfondi beaucoup naturellement. Il y a différentes perspectives sur lesquelles on peut apprécier l'apportation du pape qui vient de l'Amérique latine.
Une question là, puis ensuite on donnera la parole à monsieur.
De l'affaire Massiel des légionnaires du Christ a été assez défaillante. Est-ce que maintenant la gouvernance concrète des dicastères a changé?
Et je voudrais dire une chose, c'est l'expérience concrète, une chose, c'est aussi la vision qu'on a de ce qu'on doit faire. L'expérience concrète, naturellement, a progressé. Mais ce que je dois accentuer, c'est que maintenant, avec les derniers documents de cette année, je pense qu'il n'est pas publié après le summit avec les représentants des évêques, sont pour moi très, très importants, car il y a l'obligation de la dénonciation pour tous les prêtres, les religieux et les religieuses, hein, et aussi pour les laïcs qui sont naturellement libres de le faire, oui, mais il n'y a pas une obligation canonique. Et il y a une procédure, finalement, une procédure plus claire pour traiter les cas des supérieurs religieux ou sur des supérieurs généraux et des évêques et des cardinaux qui sont impliqués dans des cas d'abus ou par la responsabilité directe ou par cover-up. Hein. Alors ça, c'est maintenant assez clair et insisté dans des documents publics approuvés par les papes. Et ça, c'est un fruit de la réunion de février passé. Alors, je dis, il y a aussi une culture et une régulation juridique qui devient systématique dans l'Église et qui nous disent qu'il y a effectivement un problème. Elle était générale d'une ordre religieux. La loi Vos Estis Vos Mundi est exactement pris. Si on en compte aussi les cas des supérieurs, bien, mais je pense que vous avez compris.
Oui. Allez-y, monsieur. Peut-être une toute dernière question, parce qu'il nous reste que quelques minutes. Allez-y, monsieur.
C'est une question qui est peut-être un peu plus personnelle. Vous êtes jésuite. Et je voudrais savoir si vous estimez que vous avez, dans les moments peut-être difficiles, ou au contraire dans les moments plus faciles, reçu un soutien de la part de la compagnie de Jésus.
Bien dans le micro. Voilà, bien dans le micro.
Est-ce que vous avez reçu un soutien de la part de la compagnie de Jésus, et est-ce que votre formation, vous estimez qu'elle vous a bien préparé à cette mission?
Merci pour cette question. Oui, j'ai toujours eu l'expérience d'être soutenu avec grande solidarité par mes supérieurs, par mes confrères aussi. Et je dois dire qu'ils étaient contents d'avoir un confrère qui était présent dans le monde du Vatican et de la communication du Vatican. Et j'ai senti toujours solidarité. Peut-être qu'on n'a pas toujours exactement le même jugement sur les questions particulières, mais j'ai expérimenté aussi la gratitude de mes confrères pour dire, bon, tu fais un service important, car comme ça, là aussi, la compagnie est présente aussi dans un service pour les papes et peut avoir une influence et faire un service positif. Maintenant, les papes sont jésuites, alors la chose... C'est différent, naturellement, mais avant, il n'était pas jésuite.
Merci beaucoup, il va être temps de conclure. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Pierre Lombardi. Et merci à Cédric, Emmanuelle et Florence pour les questions qui vous ont été posées. Étienne.
Mais moi aussi, je veux dire un très très grand merci au Père Lombardi. Je trouve que vous nous avez donné à entendre des choses sur l'histoire récente de l'Église, avec à la fois beaucoup de vérité et de fraîcheur. Et puis, je crois que nous avons vu un très beau visage de serviteur de l'Église ce soir. Très très grand merci. Et je voulais remercier aussi tous ceux qui ont participé à la préparation de cet événement. Je pense aux membres du personnel du Centre CEF qui se sont énormément donnés, aux étudiants qui ont participé à l'accueil, bien sûr à vous qui avez préparé par des questions. Maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, aller dans l'église Saint-Ignace pour un petit temps de prière. Ça va commencer...